Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui dans VMDN, nous allons vous parler de deux femmes très différentes racontées par les arts de l'image. L'une est au centre de l'actualité depuis son décès il y a une semaine. C'est évidemment la reine Elisabeth, dont les portraits en tout genre racontent plus de 70 ans d'histoire. Des photographies de Press Association, une agence anglaise fondée il y a 150 ans, Guillaume Picon a fait un livre aux éditions Glénat intitulé « The Queen, Elisabeth II, un destin d'exception ». L'autre femme est loin des fastes et des responsabilités d'un monarque. Elle s'appelle Mérène. Elle élève des canards dans la campagne flamande. Alors ce n'est pas une tête couronnée, mais une héroïne du quotidien qui donne son nom au premier album de bande dessinée de Clara Lodewijk, une jeune et prometteuse autrice belge. Son album est publié chez Dupuis. Elle sera avec nous dans une vingtaine de minutes. Mais à toute reine, tout honneur, c'est par Sa Majesté que nous allons commencer. Et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Guillaume Picon.
Bonjour.
Vous êtes historien, auteur, vous collaborez au quotidien de l'art, à Beaux-Arts Magazine. Vous avez organisé des expositions, vous avez beaucoup publié sur les rois de France notamment. Et là donc ce beau livre sur Elisabeth II avec ce magnifique gros plan en noir et blanc sur la couverture. Photo très intéressante, c'est le jour de son couronnement je crois.
Oui, c'est une photo que je trouve magnifique pour plusieurs raisons. D'une part, la reine est jeune. Nous sommes lors de la cérémonie du couronnement le 2 juin 1953. Donc si je compte bien, elle a 27 ans. Elle rayonne de sa jeunesse. Elle porte sur cette photo la couronne royale.
Ouais, elle est assise dans son carrosse. Après la cérémonie.
C'est après la cérémonie. Et la photo, évidemment, est cadrée, serrée. Et on distingue des détails, des boiseries dorées du carrosse avec des motifs floraux. Donc on est dans une photo qui, de façon pas tapageuse, exalte le faste monarchique et la reine sourit.
Voilà, c'est ça ce qui est assez extraordinaire. C'est qu'elle est de profil, elle tourne imperceptiblement la tête et son œil droit fixe l'appareil photo, c'est un œil rieur. Alors moi, je l'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, un petit peu ironique. Elle sourit effectivement de façon très, très franche. En fait, sur cette photo, il y a à la fois les ors de la monarchie, donc les symboles du pouvoir monarchique, et en même temps, cette complicité très, très singulière qui était celle d'Elisabeth II.
Presque cette jeunesse, donc presque cette ingénuité. Et il y a une question que je m'étais posée, mais je n'ai pas eu la réponse. Donc une photo en noir et blanc prise en 1953 et on a l'impression quand on la regarde de près que nous sommes dans la tradition de ces photos qui étaient retouchées pour des publications dans la presse. Ça se faisait beaucoup autour de 1900 notamment parce que les photos n'étaient pas parfaites ou qu'il fallait magnifier le sujet. Et là on a l'impression quand on regarde les traits du visage que ça a été retouché avec des crayons ou des pinceaux.
Oui.
Et il y a effectivement cet œil qui brille. On se croirait presque. Votre remarque me fait penser à ce détail du célèbre tableau de Georges de la Tour, les tricheurs, avec cet œil de la servante qui à la fois remplit les verres et puis s'aperçoit qu'il y a un des joueurs qui triche. Et effectivement, là, avec ce mouvement du visage, cet œil brillant, ce sourire, on a l'impression d'être sur plusieurs niveaux et de ne pas être uniquement sur le niveau un peu classique, un peu marmoréen de la photo officielle.
Alors, il y a une autre photo qui arrive très très vite hein, dans le livre à la page 9. Alors là aussi, on a l'impression qu'elle joue avec à travers le photographe. Elle est beaucoup plus âgée, évidemment.
Oui, j'aime beaucoup cette photo. Elle a été placée à dessin en début de l'ouvrage, comme pour créer du rythme. Et puis, c'est une photo marquante. Donc, elle est, pour nos auditeurs, elle est format pleine page,
oui.
Portrait. Et c'est cadré uniquement sur la tête de la reine. Mais cette photo a été prise lors d'une visite au début des années 2000 de l'Albert Hall, donc une célèbre salle de concert londonienne qui venait d'être restaurée et la reine sort sa tête d'une embrasure et on a l'impression qu'en fait qu'elle visite un chantier qui n'est pas terminé, qu'elle a traversé les gravats. Enfin, on est sur quelque chose où comme si elle était sur la scène d'un théâtre. Vous savez, la pièce n'a pas encore commencé. Un des comédiens passe la tête entre les deux rideaux pour voir si la salle est bien remplie. Bah, c'est une photo de cet ordre-là. Donc là encore, on est comment dire, presque à l'opposé des représentations habituelles de la royauté.
Alors les photos qui sont dans ce livre, Guillaume Picon, ce sont des photos de presse, ce sont des photos de
bah,
journalistes.
Vous l'avez parfaitement rappelé en début d'émission, ce projet a vu le jour grâce à un partenariat iconographique monté avec Press Associated. qui, comme vous l'avez dit, est la plus ancienne et la plus importante agence iconographique anglaise.
Donc des photos de journalistes, mais dont la communication n'est pas du tout absente. Parce qu'il n'y a pas de photos de monarques, a fortiori peut-être en Angleterre, sans qu'il y ait derrière de la com, comme on dit.
Oui, oui, il y a une intention. Voilà. Évidemment. Donc,
une attention du palais, de la reine, de la famille royale, de son entourage, ou une attention des journalistes et des photographes qui sont derrière l'objectif. Bah,
selon les photos et le contexte dans lequel elles ont été prises, les deux sont possibles. Ce qui est sûr, c'est que derrière ces photos, il y a à l'œuvre une stratégie de communication, que ce soit celle de Buckingham Palace ou celle du photographe. Et on voit bien, là, on peut imaginer que le photographe s'est plu, s'est ingénié à son tour avec cette photo dont nous venons de parler, a justement presque réalisé une photo à contre-emploi de la reine.
Alors évidemment, les codes de la communication s'expriment à plein. Par exemple, il y a une double page. Il y a même plus qu'une double page, un chapitre en fait sur les tenues de la reine lors des sorties en public. Les couleurs de ses chapeaux étaient évidemment choisies pour les photos, pour les images de télévision aussi. Et il y a un chapitre d'ailleurs sur la reine et la mode avec ce commentaire « Total look ». Alors là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant. En fait, il y a toute une série de photos de 1954 à 2015. C'est compliqué parce qu'on est à la fois dans la tradition en essayant de coller un petit peu à l'air du temps. C'est un peu la quadrature du cercle, quand même, Guillaume Picon.
Oui, surtout pour Elisabeth II. Alors, je pense que son règne s'écoulant, à la fin, elle avait un âge tel qu'elle pouvait s'affranchir des codes de la mode. Mais effectivement, jeune, je pense qu'elle devait à la fois veiller à s'inscrire dans une certaine continuité par rapport à la tradition monarchique, tout en s'efforçant de ne pas paraître plus vieille que son âge. Et donc, de ne pas porter les tenues que pouvait porter sa mère ou avant sa grand-mère. Et puis, en me renseignant sur ce sujet, enfin cette question, les tenues de la reine, les vêtements, les chapeaux, etc., eh bien, ce qu'on apprend assez vite, c'est qu'en fait, la reine est d'une taille moyenne et qu'il y avait un enjeu, là encore, de communication. C'est que lors des grandes cérémonies type garden party, où beaucoup de monde... il y a énormément de monde autour de la reine et il importe que la reine soit vue
tout de suite
et que la reine soit vue en premier
et
que donc une des raisons de ces tenues si colorées qui parfois ont été moquées, c'est d'abord une raison de communication.
Ce qui signifie, Guillaume Picon, que l'on accordera autant d'attention au choix des tenues et des couvre-chefs du roi Charles III, même si c'est un roi et pas une reine.
Alors, autant d'attention, je ne sais pas, parce qu'on est encore dans une société, et notamment dans les familles royales, où les liens qui sont faits entre un individu et la mode, ses tenues, varient selon le sexe, hein, pour dire les choses clairement. Ce qui est sûr, c'est qu'avec Elisabeth II, il y avait une photo, notamment intéressante par sa symbolique, c'est le jour où elle a procédé à cette cérémonie qu'on appelle l'ouverture du Parlement. C'était en 2017 et elle devait annoncer dans le discours qui avait été écrit que la Grande-Bretagne allait quitter l'Union européenne. Et je crois que c'est quand on s'intéresse à la vie politique anglaise et à la reine, c'est un secret pour personne que un des regrets de la reine était ce fameux Brexit.
Mais elle ne peut pas le dire.
Et la reine, selon un usage qui remonte au règne de Victoria, ne peut pas intervenir publiquement dans la vie politique du pays. Et quand on regarde la photo, elle a une tenue bleue, qui est la couleur du drapeau européen. Elle porte un chapeau également bleu, avec au sommet du chapeau plusieurs fleurs jaunes. Sachant que le drapeau européen, vous avez des étoiles jaunes qui correspondent aux États de l'Union. Et donc les commentateurs britanniques ont interprété ce choix vestimentaire comme un message discret, mais réel, de la part de la reine. Donc là encore... l'image et les symboles peuvent être utilisés à des fins politiques.
Alors justement, un portrait politique, alors c'est pas vraiment un portrait, mais c'est une photographie que je trouve aussi très intéressante parce qu'elle est assise, la reine, c'est la photo de la page 79 de votre livre, Guillaume Picon, elle est assise sur un fauteuil et puis debout, il y a derrière elle Charles et William devant une bibliothèque. Alors c'est presque... un tableau d'un peintre officiel, quoi. Est-ce que finalement les peintres de cour, je sais pas, un Rigaud ou un Philippe de Champagne en France du temps de l'absolutisme français auraient pu faire un tableau un peu du même genre?
Alors je suis content que vous portiez la discussion sur cette question du peintre officiel parce que Élisabeth II ayant eu un règne très long, elle a été portraiturée au sens propre, c'est-à-dire peinte, à plusieurs reprises. Et il semble, quand on regarde les tableaux et quand on se renseigne sur ceux qui avaient ses préférences, qu'elle avait un goût pour une peinture figurative, dans le cas d'un portrait, cela va sans dire, mais un style, une manière plutôt réaliste, hyper réaliste, comme si le peintre, eh bien, son travail, c'était de faire en sorte que le sujet qu'il représente ressemble le plus en peinture à une photo qui aurait été prise. Donc là, nous sommes avec cette photo. De fait, nous sommes dans cette tradition-là, avec une pose, un côté hiératique. Et ce qui est intéressant dans cette photo, c'est que vous avez trois générations représentées simultanément, puisque vous avez la reine régnante qui est assise et debout son fils, l'héritier, le prince Charles, alors prince de Galles, et
l'héritier de l'héritier,
et l'héritier William. De l'héritier, le prince William, le fils aîné. Et donc, pour revenir à cette tradition du portrait officiel, en 2001, en préparation du Golden Jubilee de 2002, qui était un moment très délicat pour la couronne britannique, donc la reine et son entourage, parce que quelques années plus tôt, 1997, il y avait eu le décès accidentel de Lady Diana, la princesse de Galles, et que la réaction de la reine avait été jugée maladroite, et que cette réaction avait entraîné... comme une désaffection d'une partie de l'opinion publique vis-à-vis de la souveraine. Donc, dans l'entourage de la reine, de nombreux conseillers appréhendent les célébrations de ce Golden Jubilee de 2002. Et un portrait de la reine est commandé à un grand artiste contemporain, que vos auditeurs connaissent peut-être, qui est Lucian Freund, donc le petit-fils du psychanalyste, qui a eu plusieurs expositions au Centre Pompidou, dont une très belle rétrospective. Et ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question comment un artiste contemporain réinterprète un genre qui est très ancien, qui est le genre du portrait.
Mais alors justement, est-ce qu'on sait précisément comment se déroulaient les séances de pose entre un artiste contemporain comme Lucian Freud, elle a posé pour Avedon aussi, je crois, à d'autres périodes, cette relation singulière qu'il y a entre un photographe et son modèle, quand le modèle est une reine comme Élisabeth II.
Coup de chance pour Lucian Freund. La reine, comme vous savez, est passionnée par tout ce qui concerne les courses de chevaux. Et il se trouve que Lucian Freud connaissait ce sujet, donc il paraît que la discussion a beaucoup porté sur les chevaux. Et quand vous regardez le portrait, effectivement, ce que nous avons en tête, ce que nous avons comme référence quand nous parlons d'un portrait d'un souverain, c'est Hyacinthe Rigaud, le portrait en pied de Louis XIV en tenue de sacre. Et bien là, on s'attend à un portrait en pied. Et en fait... C'est donc un grand format. Le tableau fait 25 cm de haut par 15 de large et c'est un portrait serré uniquement sur le visage. Et ce qu'on voit, c'est le visage, mais très serré, la chevelure sur laquelle est posée la couronne qui est peut-être un tout petit peu tronquée en haut. Et la reine, ce qu'on sait, c'est que ça n'était pas le portrait préféré de la reine, alors que de mon point de vue, mais tout le monde n'est pas obligé d'apprécier évidemment l'art de Lucian Freud, mais qu'il s'est livré à cet exercice, comment traduire la psychologie d'un modèle dans un portrait. Et la souveraineté dans ce petit tableau éclate magnifiquement.
Et les 10 chapitres de votre livre, Guillaume Picon, nous racontent cet incroyable destin d'Élisabeth II en texte et en photo. On continue de le feuilleter avec vous, avec une photo historique. Nous sommes le 13 octobre 1940, c'est le Blitz, cette terrifiante campagne intensive de bombardement lancée par l'aviation nazie pour que Londres se soumette. La jeune princesse de 14 ans prononce son premier discours à ce moment-là à la radio et elle s'adresse aux enfants.
We know, every one of us, but in the end, all will be well.
Nous savons, chacun d'entre nous, qu'à la fin, tout ira bien. Car Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Et quand la paix viendra, rappelez-vous que ce sera à nous, les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un endroit meilleur et plus heureux.
Et vous nous décrivez la photo qui accompagne ce discours, Guillaume Picon. Il y en a plusieurs versions, hein. Vous avez choisi celle-ci.
Je vous remercie d'avoir retenu cette photo et surtout d'avoir diffusé cette archive sonore que je n'avais jamais entendue. Je trouve très, très, très émouvante. Pas tant parce que il s'agit du premier discours de la princesse qui est âgée de 14 ans, mais la circonstance historique, c'est qu'effectivement, vous l'avez rappelé, nous sommes dans le Blitz, donc c'est cette époque où la France, depuis juin 1940, a signé l'armistice avec l'Allemagne nazie, et dans le monde occidental, il n'y a qu'un pays qui résiste, c'est l'Angleterre, et au prix d'attaques massives de l'aviation allemande, qui vise à prendre possession du ciel britannique, et l'aviation anglaise va tenir. Et ce discours, je pense, a eu une importance indéniable, comme tous les discours prononcés à cette époque-là par le roi ou le Premier ministre.
Pour soutenir le moral des Anglais.
Pour soutenir le moral des Anglais. Il faut savoir que, par mesure de sécurité, le couple royal avait envoyé les princesses, donc Elisabeth II et sa jeune sœur Margaret, que l'on voit sur la photo, à Windsor. Donc elles étaient gardées par un régiment. Et le couple royal était chaque jour à Buckingham Palace et rentré à Windsor le soir. Et quand le Buckingham Palace a été bombardé, et quand des quartiers de Londres étaient bombardés, la famille royale, le couple royal se rendait auprès des populations, auprès des victimes, mais aussi de très belles photos. Ce qui fait que Hollande...
Dans les ruines, il y a des photos dans les ruines d'Elisabeth,
d'Elisabeth
Churchill aussi, parfois.
De Churchill, du roi.
Premier ministre à l'époque.
Et ce qui fait que, on a oublié aujourd'hui, mais George VI, le père d'Elisabeth, n'est pas né pour être roi. Elisabeth, n'est pas née non plus pour être reine. Et c'est le frère aîné de George VI, Édouard VIII, qui décide d'abdiquer, comme il le déclarera lui-même, pour épouser la femme qu'il aime. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'au sein d'une grande partie de la population britannique, et surtout au sein de la famille royale, qui est vraiment une famille éprise du sens du devoir, cette abdication, c'est une tragédie. Et pour Elisabeth, c'est d'autant plus une tragédie qu'elle a vu, son père ne voulait pas être roi. Le superbe film très émouvant, Le discours d'un roi, l'a montré. C'est quelqu'un de timide, d'introverti, qui n'arrive pas à s'exprimer en public, qui bégait. Il supplie son frère de ne pas abdiquer. Et George VI choisit le prénom George VI, son premier prénom c'est Albert, pour en quelque sorte faire oublier l'abdication de son frère Édouard VIII et renouer avec son père très populaire George V. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a une photo que vous montrerez peut-être, mais qui est dans le livre, que je trouve très émouvante, c'est le 8 mai 45, vous avez la famille royale qui est sur le balcon que tout le monde connaît, sur la façade du palais de Buckingham qui donne sur le monument de Victoria, et là, honneur insigne, le roi a demandé à Winston Churchill de les rejoindre. C'est le seul Premier ministre à avoir eu cet honneur. La princesse Elisabeth est jeune et elle porte un uniforme militaire puisqu'elle s'était engagée dans un corps d'ambulancière. Elle avait ainsi appris à conduire, à démonter un moteur.
Il y a la photo hein, d'ailleurs devant le capot ouvert.
Le capot ouvert
on la voit aussi au volant d'un camion militaire de l'armée. Effectivement, à ce moment-là, il y a des clichés effectivement de jeunesse. Hein, Guillaume Picon qui montre l'apprentissage du métier de reine. On la voit à 2 ans dans les bras de sa nourrice qui deviendra son habilleuse ensuite. Précise la légende. Alors évidemment, dans votre livre, les photos du mariage avec le prince Philippe, le couronnement, les cérémonies officielles, comme l'ouverture du Parlement, il y a des scènes très classiques, mais très belles, évidemment, très photogéniques, avec les Horse Guards, hein, on la voit saluer le drapeau aussi. Bref, il y a le faste des cérémonies et des jubilés, il y a les saluts au balcon, il y a la famille, il y a la complicité avec les chevaux, il y a les jeux dans l'herbe avec les corgis, tout y est. Et puis, il y a les photos des personnalités. Alors là, vous aviez l'embarras du choix. Barack Obama, Reagan, Hirohito, Sarkozy, Nelson Mandela, évidemment, donc on revisite l'histoire finalement dans votre livre à travers elle. Celle qui moi le plus impressionné, la photo, c'est celle avec Mère Teresa.
Étonnant cette photo, je suis tombé dessus, enfin voilà, hein, pour vous dire comment les choses se sont passées. PA, donc l'agence iconographique anglaise, nous a ouvert ses archives, a également fait des recherches pour le projet, et puis je lui avais communiqué le sommaire du livre et opéré des classements en suivant le sommaire. Donc cette photo, je l'ai découverte. Je ne l'avais pas du tout en tête. Et effectivement, je l'ai trouvée très émouvante. Et ça m'a rappelé une chose que, évidemment, en tant que Français, je n'avais pas présente à l'esprit. C'est qu'en Grande-Bretagne, la reine qui règne mais ne gouverne pas, elle est à la tête de l'Église britannique. Elle est à la tête de l'Église anglicane. Et un de ses titres officiel depuis Henri VIII, donc depuis même avant le schisme entre Rome et l'Église anglicane, titre qui avait été décerné à Henri VIII par le pape, c'est le titre de défenseur de la foi. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que la religion occupe une place importante dans la façon dont la reine exerce son métier. Et que dans un pays comme l'Angleterre, les prélats de l'Église anglicane, eux ont la liberté dans leur sermon d'intervenir et de commenter la vie politique, en estimant par exemple que les écarts entre riches et pauvres se creusent trop, etc. Et vous avez aussi dans les cérémonies officielles, des cérémonies accomplies par la reine, j'entends, des cérémonies de nature religieuse. Donc cette rencontre entre Mère Teresa et Elisabeth II, finalement, m'a fait prendre conscience de la place cruciale qu'occupe la religion dans la façon qu'a la reine d'exercer son métier.
Allez, une dernière pour terminer, Guillaume Picon, parce que celle-ci, moi, elle m'a presque émerveillé. C'est une photo qui figure dans la partie réservée au voyage officiel dans le Commonwealth. Et elle est prise en photo avec des enfants en costume de carnaval. Ça se passe à Trinité et Tobago en 2009. Et c'est très, très étonnant parce que les couleurs des vêtements de la reine sont extrêmement proches de celles des enfants. On dirait presque qu'elle aussi, elle est déguisée. Là, on se dit, mais c'est pas possible qu'un tel hasard se soit produit. Et pourtant, on a quand même peine à croire que les jeunes qui sont déguisés et les services de la reine ont communiqué pour la photo. Alors, c'est incroyable, ça.
Je pense pas qu'ils aient communiqué, mais quand la reine se rendait en voyage officiel, avec sa femme de chambre qui l'accompagnait dans les déplacements, les tenues étaient préparées à l'avance, si vous voulez. Il y avait comme un agenda, un planning des tenues. Alors évidemment, il y avait plus de tenues que de nécessaires parce qu'il fallait prévoir les impondérables. Et je pense que là, nous sommes Tobago, les Antilles britanniques. Et je pense que culturellement, il y a des tissus que utilisent les gens là-bas et que la reine et son entourage avaient en mémoire ce type de tissu et que donc il y a eu un choix vestimentaire en rapport avec la couleur locale, mais pour le coup au sens propre, au sens textile du
voilà,
terme.
Rien
et, comme vous l'avez,
au hasard,
et comme vous l'avez deviné, ça n'est pas le hasard.
Merci beaucoup Guillaume Picon. Il y a énormément d'anecdotes, mais aussi énormément de sens historique apporté à l'histoire et au destin incroyable, au destin d'exception, pour reprendre le titre de votre livre, que dans cet ouvrage que vous publiez, je le rappelle, aux éditions Glénat. Merci beaucoup.
Tell me a story where we all change and we'd live our lives together, another strange. I didn't lose my mind, it was mine to give away. Couldn't stay to watch me cry. You didn't have the time, so I softly slip away. No regrets, they don't work. No regrets now, they only hurt. Drop me a line. Suppose it's just a point of view, but they tell me I'm doing fine. Oh.
from the outside. We look good for each other. Felt things were going wrong when you didn't like my mother. I don't want to hate, but that's all you've left me with. A bitter aftertaste and a fantasy of how we all could live. No regrets.
No regrets, le nouveau Robbie Williams sur RFI. Bonjour Clara Lodzik.
Bonjour.
Vous publiez Merelle, le premier roman graphique de la nouvelle collection des éditions Dupuis qui s'appelle Les Ondes Marcinelles. C'est votre première BD tout court.
Oui, c'est aussi. Ma toute première BD. Oui.
C'est deux premières pour le prix d'une. C'est donc un album en plus vraiment singulier. C'est une sorte de thriller psychologique et rural. C'est assez étonnant comme mélange. Est-ce qu'à l'instar de vos personnages, Clara Lodzik, vous êtes une fille de la campagne?
Non, pas tout à fait. Moi, j'ai grandi à Bruxelles. Mais quand j'étais au début de l'adolescence, mes parents ont décidé de déménager dans un petit village en Flandre, en effet. Donc,
comme celui dans lequel se passe votre récit.
Exactement. Alors, je ne l'ai pas copié. Mais oui, je me suis inspirée de ce village, évidemment. Et le fait d'arriver plus tard et de ne pas être née là m'a fait que j'ai remarqué certaines choses que je n'aurais peut-être pas remarquées si j'avais vécu là.
C'est intéressant parce que vous me répondez tout de suite en parlant de remarques. Est-ce que vous estimez que remarquer quelque chose, autrement dit le sens de l'observation, c'est une qualité très importante quand on veut dessiner, quand on veut faire de la BD, quand on veut raconter des histoires? Est-ce qu'une dessinatrice, c'est d'abord une observatrice?
Je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et pour raconter les gens et leurs habitudes, c'est vrai qu'observer, il n'y a rien de tel. Quoi. La plupart des dessinateurs font beaucoup de carnets de croquis, notamment. On croque les gens dans la rue.
C'est votre cas?
Oui, bien sûr. Oui. J'en fais beaucoup moins maintenant, malheureusement, mais j'en fais toujours.
Alors, on m'a dit que vous dessinez dans une caravane, c'est vrai ça? ou c'est déjà une légende? Parce que s'il y a déjà une légende, Clara Lodzik, alors qu'elle a à peine publié son premier album.
Ah là là. Non, je ne vis pas dans une caravane, mais je vis dans un camion, quoi, un camping-car aménagé. Oui, un camion aménagé.
D'accord.
Oui.
Donc avec une petite baie vitrée qui vous permet comme ça de jeter un regard aussi sur l'extérieur.
Alors oui, parfois je prends un peu des photos derrière mes vitres discrètement quand je suis sur des parkings, c'est assez pratique. Oui.
Bon, en tout cas, vous avez pas mal observé très certainement la vie quotidienne d'un village comme celui où se déroule votre récit, parce qu'on est tout de suite plongé dans cet univers. L'album démarre par un concours de beauté. Mmh. Un concours un petit peu particulier puisque c'est un concours de beauté de canard. Vous avez déjà assisté à ce genre de compétition?
Alors malheureusement non, je savais que ça existait, j'avais très envie d'y aller, mais le problème c'est que j'ai commencé à faire Merle au début du confinement, donc tous les concours que j'avais prévu d'aller avaient été annulés.
Oui.
Mais j'ai pu rencontrer un aviculteur qui s'appelle Lars, que je remercie dans l'album, et qui m'a expliqué un peu tout ça, qui m'a fait visiter son élevage de pigeons pour le coup, mais il avait fait des canards aussi.
Voilà, et Merelle, donc le personnage qui donne son nom à votre album, est précisément éleveuse de canards. Alors c'est pas des canards pour le foie gras comme dans le sud-ouest de la France.
Non, elle est végétarienne.
Voilà.
Non.
C'est des canards de compagnie, d'une certaine façon.
Alors on appelle ça même des canards d'ornement, il me semble. Alors c'est pas normalement les aviculteurs qui font ça ont une seule race de canards, voire deux, qu'ils déclinent et qu'ils essayent de perfectionner en les faisant se croiser entre eux. C'est pas du tout son cas, et donc c'est pas très réaliste, mais comme Merle est un petit peu anarchiste sur les bords, elle se permet de faire ça avec ses canards aussi. Elle prend juste les canards qu'elle aime, et voilà.
Oui, c'est vrai qu'elle a un petit côté anard, un côté libre, indépendant. Alors, elle a pas d'enfant, c'est un élément important dans votre récit. Elle a quoi, une cinquantaine d'années à peu près?
Oui, c'est ça, oui.
Voilà,
oui,
c'est
oui.
Un pilier du club de foot du village. Tout elle écrit au passage quelques articles pour le journal du coin. Mmh. Autrement dit, elle a une vie tranquille, une vie sans histoire. On se dit, c'est pas une héroïne pour une bande dessinée.
Non, mais moi je l'aime bien.
Oui, moi aussi. Mais alors justement, comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre une éleveuse de canards, d'ornement donc, en une de votre album et de raconter l'histoire de ce personnage-là? Il va lui arriver quelque chose d'important, hein.
Oui.
On va y venir évidemment. Oui. Mais pourquoi une éleveuse de canards d'ornement? Ça va pas de soi.
Bah, au tout début, il y a quelques années, j'étais tombée sur un fait divers qui parlait d'un type dont on avait tué toutes les poules. Donc ça m'était resté en tête. Mais je n'ai pas utilisé ce fait divers à l'époque. Et ensuite, j'ai rencontré des femmes qui m'ont inspirée, dont j'avais envie de raconter la façon de bouger, la façon de parler. Pas l'histoire, parce que je ne connaissais pas leur histoire, mais vraiment leur physique presque, qui m'inspirait quelque chose. Il y avait un caractère, une force. Et puis je me suis dit, bah, celle dont tue les poules, soi-disant, ça pourrait être une de ces femmes-là, quoi. Et donc, comment est-ce que ça pourrait être le cas? Bah, il faudrait qu'elle élève des animaux, mais j'aime mieux les canards, voilà. Donc, c'est devenu une éleveuse de canards.
Voilà, donc une éleveuse de canards qui est passionnée donc par le foot dans le village, qui est parfaitement intégrée à la petite société hein, oui. que forme ce petit coin de Flandre. Alors, dans ce village, quand on fait la fête, on chante ça. On a bien retrouvé, vous avez reconnu.
Incroyable.
Bon, ça, c'est un hymne de supporters de foot. Hein, voilà. Ouais. Et un soir, au cours d'une soirée précisément entre footeux, une phrase de trop et tout va déraper. Notre réalisateur Pierre Plantier a mis en onde un extrait de l'album qui commence par une partie de Babyfoot.
Ha, prends ça, Berthe.
Tu penses que tu vas t'en tirer comme ça?
Ha, hey, ouais.
Peu, ça se voit qu'il te laisse gagner, ce grand sentimental.
Alors là, Guerre, tu connais rien. Eh, pas de moulinette, tricheur! Ouais! Vous êtes bon sur le terrain, mais moi, je suis la reine ici.
Tu viendras nous voir jouer dimanche?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, je dois couvrir le match pour le journal.
Très bien, très propre. N'est-ce pas, Merel?
De quoi?
Tu as vu les nouvelles douches?
Ah oui, très belles. Mais je ne suis pas restée, ton mari s'y trouvait nu comme un verre.
Geert, il faut qu'on rentre maintenant.
On n'est pas pressé, Suzy. Restons encore un peu.
Oh, allez, Suzy, on s'amuse bien.
Tu sais, on a un fils, nous. Et il nous attend.
Ah oui, c'est sûr que ça, je ne peux pas comprendre.
On sent l'amertume hein, de cette dernière réplique, Clara Ludwig. On sent aussi le froid que cette petite blague, alors pas forcément de très bon goût, hein, jette dans l'assistance après les quelques rires qu'on a entendus. Alors on l'a compris, hein, Suzy le prend très mal, d'autant plus qu'à ce moment-là, et c'est expliqué dans la première partie de l'album, son couple avec son mari Geert bat de l'aile. Et c'est le moment de bascule, en fait. Elle va dire partout que Merel est une femme facile, une méchante femme, même, dit-elle à son fils. Et petit à petit, tout le monde va mettre Merel en quarantaine. En fait, tout part d'une sorte de malentendu, quoi. Il ne faut pas grand-chose, il faut une mini-étincelle pour que le feu flambe.
Je pense que tout le village n'attendait qu'un petit événement pour pouvoir éclater. Merel, c'est l'exemple parfait du bouc émissaire, c'est-à-dire qu'elle est... purement victime, elle n'a absolument rien fait de mal, mais il suffit qu'elle soit un tout petit peu différente pour qu'on trouve des raisons pour s'attaquer à elle. Et là, Suzy, en effet, ça va pas bien dans son couple. Elle va lancer le lynchage sur elle, quoi.
Oui, en fait, on a besoin d'un bouc émissaire. C'est un peu comme si on pouvait pas échapper à ce genre d'Alali.
Oui, il y a des sociologues qui disent ça, notamment René Girard. Il dit que un bouc émissaire, c'est nécessaire à la société pour qu'elle fonctionne. On ne peut se lier ensemble que en ayant une sorte de, en pouvant lâcher la haine et la frustration sur quelqu'un d'autre. Moi, j'espère que c'est pas vrai. J'espère qu'on peut faire autrement, mais malheureusement, c'est souvent le cas. Et oui.
Oui, et c'est vrai que le contraste est saisissant. Alors, c'est pas. Il n'y a pas vraiment un point de bascule quand même qui est très très fort. Ça se fait de façon très très progressive dans l'album. Mais dans la première partie du récit, avant la fameuse blague, on découvre la complicité, le côté très bon enfant, l'amitié qu'il y a entre Merel et la patronne du café, Fabienne, par exemple, avec les commerçants du village. Et tout à coup, le ton et l'attitude de Fabienne changent. Même chose quelques jours plus tard quand Merel se rend à la supérette.
Je vais te prendre ceci.
Ça va aller? J'étais devant toi, n'est-ce pas, Marianne?
Si. Excuse-moi, Saskia.
Désolée, je n'avais pas remarqué que je prenais ta place.
Ça t'arrive souvent, ce genre de choses.
Quoi?
18 euros, Saskia, s'il te plaît.
À quoi tu fais référence?
Merel, tu peux venir maintenant.
Saskia?
Allons, on le sait tous.
Non, mais de quoi tu parles?
Bon, tu les achètes, tes courses? De toute façon, personne ici n'est dupe.
Marianne, c'est quoi ce truc? Tu pourrais m'expliquer au moins que je puisse me défendre? Car clairement, vous m'attaquez.
Ça te fait 23,89 euros.
Ah oui, donc les petites réductions, c'est fini aussi, du coup?
On ne va pas te faire de cadeau, en plus.
Voilà, et allez comprendre, hein, se dit Merel quand elle sort de la supérette et qu'elle dépose ses courses dans son coffre. Et peu à peu, Clara Ludwig, le poison du doute et de la calomnie, celui bien connu de « il n'y a pas de fumée sans feu hein, », finalement, c'est un peu ça, va se répandre dans le village. Et vraiment, j'insiste sur le côté progressif. Parce que vous faites monter cette tension, là, vraiment, de façon graduelle. Et ça passe notamment par les expressions des visages, qui sont, je trouve, extrêmement précises, alors que votre dessin, on est dans la ligne claire, hein, on ne l'a pas encore précisé, mais c'est important. Votre dessin, donc ligne claire, a l'air extrêmement simple. Il n'y a pas beaucoup de traits. Et pourtant, vos visages sont extrêmement expressifs et peuvent changer radicalement d'une case à l'autre. Comment on fait pour rendre un visage expressif, Clara Ludwig ?
Ouh là là, alors là, j'en sais rien du tout.
C'est instinctif.
Oui, après, je pense que, je ne sais pas comment font les autres dessinateurs, mais souvent, quand on dessine, on joue un peu l'expression qu'on doit faire, donc peut-être que je suis une bonne actrice dans ma tête, mais je ne sais pas, non.
Vous avez l'impression d'être une metteuse en scène quand vous dessinez un album ?
J'ai jamais fait de théâtre, donc en vrai, non, je ne sais pas du tout.
Mais
non.
Vous jouez avec vos personnages, parce qu'on a, on est vraiment dans le côté infinitésimal, quoi, dans le petit détail. Quoi. Il suffit que la bouche ne soit pas tout à fait comme sur la case précédente, que l'œil soit légèrement ouvert, légèrement fermé, vous rajoutez un petit trait sur la paupière, une petite fossette. Enfin, ce genre de petits détails-là, finalement, ça change tout. Le détail est essentiel dans votre dessin, si j'ose dire.
Bah moi, c'est ce que j'adore. C'est quand... Parce que dans la vie réelle, c'est comme ça. Il n'y a pas énormément de choses vraiment extrêmes. Et cette histoire n'est pas une histoire extrême. Il y a quelques petits événements extrêmes, mais finalement, ce n'est pas si grave par rapport à la réalité. Il se passe des choses bien pires. Ce qui est chouette, justement, c'est de voir les petites évolutions dans les relations, les petits détails, les petits changements. Quand on parle avec quelqu'un, le langage non-verbal, enfin... C'est ça qui m'intéresse vraiment, oui.
Alors, l'événement qui va faire craquer Merel, qui va la bouleverser, ce n'est pas des adultes qu'il va venir, mais c'est d'un groupe d'enfants. On ne va pas raconter de quoi il s'agit, mais quand même, Clara Ludwig, les enfants, ça peut être extrêmement cruel.
Mais les enfants sont des victimes dans cette histoire, parce que finalement, ce sont les parents qui sont coupables et qui expriment leur haine sans réfléchir... Au public autour, les enfants, ils entendent ça, mais ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Donc les enfants, ils ne font qu'accumuler, recevoir de la haine et d'entendre des choses horribles. À un moment, ils sont obligés de réagir, ils vont l'exprimer à leur tour, mais par contre, d'une façon complètement incontrôlée, parce qu'ils ne savent pas agir de façon adulte et mature. Et donc c'est terrible, parce que les enfants vont se retrouver à faire des choses pour lesquelles ils vont culpabiliser, et peut-être encore longtemps, alors qu'eux-mêmes sont complètement victimes de cette situation, et voilà, ouais, pauvres enfants.
Ouais, et parmi les enfants en question, il y en a un qui s'appelle Finn, qui n'est autre que le fils de Suzy. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, Suzy, c'est celle qui a commencé, celle qui a lancé la rumeur. Finn souffre du divorce annoncé de ses parents. C'est un petit garçon très, très, très sensible, vous le dessinez au début, il est dans sa chambre tout seul, enfin, il pleure beaucoup, on sent que vraiment, il est vraiment en situation personnelle, psychologique difficile. Donc, il va commettre cet acte avec son groupe de copains. Il va venir s'excuser. Il va tenter de s'amender auprès de Merel. Et c'est ce petit garçon-là, d'ailleurs, que vous dessinez aux côtés de Merel sur la couverture de l'album. Alors, c'est une tradition dans cette émission. Quand on reçoit une dessinatrice ou un dessinateur de BD, on explique, on décrit déjà la couverture parce qu'on est à la radio. Et puis, on explique comment on en est arrivé là, si je veux dire. L'idée de cette couverture, elle vient d'où ?
Vous voulez que je la décrive ou que je dise...
Bah, commencez par la décrire.
Donc la couverture, on voit la maison de Merel qui est assez petite et qui est dans le tiers inférieur de la page, entourée d'une grande forêt plutôt menaçante. Il y a un ciel plutôt orageux, donc c'est assez inquiétant normalement. Et devant la maison de Merel, il y a Merel et Finn qui font rentrer des canards, donc les canards d'ornement dont on parlait un peu plus tôt,
oui.
Et qui les font rentrer à l'intérieur comme si quelque chose les menaçait, qu'il fallait les mettre à l'abri.
On sent tout de suite la menace. Comment on fait lourd, sentir quoi. Justement la menace graphiquement parlant, Clara Ludwig ? Puisque, en fait, l'idée, c'est de montrer quelque chose que vous ne dessinez pas.
Oui, tout à fait. Alors, des personnages inquiets, évidemment, ça peut aider. Mais sinon, il y a des trucs un peu clichés, comme un ciel lourd, notamment. Mais alors, moi, j'ai opté pour les arbres, notamment, parce que les arbres autour de la maison de Merel sont un élément qui peut être rassurant pour elle, parce que c'est un cocon. Et en même temps, ça peut aussi être très effrayant, parce que les gens peuvent se cacher entre les arbres. Et les enfants, notamment, quand ils viennent l'espionner, se cachent entre les buissons. Donc là, ça ne devient plus un mur sécure, mais un mur dangereux. Et... je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, vous, mais en tout cas, beaucoup de gens ont peur des branches la nuit, la forêt la nuit, la forme que peuvent... penser à Blanche-Neige de Walt Disney.
Bien sûr.
Voilà, la scène dans la forêt, c'est exactement ça. On peut imaginer plein de choses dans les branches, on peut voir des choses, donc ça fait peur.
Il y a un côté très, très pictural sur cette scène-là. On reconnaît pleinement le trait qu'il y a à l'intérieur de l'album, mais quand vous dessinez justement des paysages, quand vous dessinez la maison aussi, singulièrement de Merelle, on a presque l'impression d'être, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes de Flandre, mais enfin on a un peu l'impression d'être devant des tableaux.
Alors j'aime beaucoup l'expressionnisme flamand justement. J'ai été très... Alors j'avais un petit dossier où j'avais mis vraiment tous les tableaux qui m'inspiraient pour mon album que je regardais presque tous les jours. Je re-regardais tous les tableaux que j'aimais tous les jours. Pour les personnages, par exemple, il y avait Constant Permec, que j'aime beaucoup, et qui dessine les gens au travail et qui dessine justement des corps en mouvement. Et c'est ça qui m'intéressait pour Merle. Donc... moi, en tout cas, ça m'inspire énormément, vraiment énormément. Oui.
Alors, on le disait tout à l'heure, vous avez fait le choix de la ligne claire. Ça peut étonner quand on connaît un petit peu l'histoire de la bande dessinée belge, puisque les ondes Marcinelle, ça fait référence à l'école de Marcinelle. Et l'école de Marcinelle, si je ne dis pas de bêtises, c'est construite un peu en opposition à la ligne claire d'Hergé. Donc, on va dire le camp d'en face. Pourquoi est-ce que, pour les ondes Marcinelle, vous avez choisi la ligne claire?
Alors, je n'ai pas choisi pour les ondes Marcinelle. En fait, c'est surtout une discussion avec mon éditeur, qui est Thomas Gabisson, qui m'a énormément accompagnée pour le scénario et pour le dessin. Parce qu'au début, moi, comme vous le dites, c'est mon premier livre, je n'ai pas encore dessiné d'autres livres. Donc, il a fallu tout décider, en fait. Je dessinais de façon beaucoup moins franche avant. Et il m'a poussée à affirmer mon trait et à faire des choix. Parce qu'en faisant des choix, on attrape une identité, quoi. On est plus reconnaissable. Et puis... ça colle bien à Merle d'avoir un trait franc, affirmé et solide. Quoi.
Oui. Alors, vous prononcez son prénom pas du tout comme moi, vous le prononcez à la néerlandaise. Oui. Ouais, l'album va être traduit en néerlandais?
Oui, en janvier, il sort chez Standaard. Ouais.
Eh bien, rendez-vous est pris pour ceux qui nous écoutent et qui préféraient le lire en néerlandais. Merci beaucoup, Clara Lodewijk, d'être passée nous voir.
Merci.
Donc, Merle, alors redites-le.
Merle, oui.
Voilà, est paru aux éditions Dupuis de la collection Les Ondes Marcinelles.
Ce soir je veux un verre aux fruits tendres. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Ce soir je veux un verre aux fruits tendres. Ce soir je veux de l'herbe pour m'étendre. Ce soir je veux partir, arrêter d'étouffer et avec toi courir pour quitter ce quartier. Oh, notre nuit sera au green, green, green. Au green, 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 loin des particules fines. Oh, notre nuit sera au clair, faire, faire. Au clair, faire, faire. Loin de l'épée de serre. Oh, ouais. Ce soir, je veux du noir, du vrai, sans une lueur. Marre des cités d'or comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Ce soir, je veux du noir, du vrai, sans une lueur. Marre des cités d'or comme des projecteurs. Je veux une clairière pour attirer la zone qui fait l'atmosphère, le ciel et puis l'ozone. Oh, notre nuit sera au green, green, green. Au green, 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 loin des particules fines. Oh, mine. Oh, notre nuit sera au clair, faire, faire. Au clair, faire, faire, loin de l'épée de serre. Oh, ouais. Nos deux corps écolos apaiseront la terre et mettront à zéro tous ces cons qui sont fiers. Et d'un nos baisers bio naîtra de la matière qui sera recyclée en énergie lunaire. Green dream dream, oh green dream dream, loin des particules fines. Oh, mine, dans notre nuit sera au clair.
Green Dream, la chanteuse suisse Stéphane dans VMDN sur RFI. De Belgique, on passe donc en Suisse puisque cet été s'est ouvert à Lausanne Plateforme 10, un complexe réunissant les musées des beaux-arts, de la photographie et du design. Et pour leurs premières expositions, ces trois musées se sont intéressés au train à travers l'histoire de l'art. Reportage en Suisse signé Antoine Pecker.
Le bruit des trains accompagne les visiteurs de Plateforme 10. Ce nouveau quartier des arts a été construit à seulement quelques dizaines de mètres de la gare de Lausanne, à la place d'une ancienne emprise ferroviaire, comme nous l'explique Camille Levesque-Claudet, conservateur au Musée des Beaux-Arts.
Nous sommes vraiment au bord des voies. Vraiment, regardez, elles sont toutes proches. Il faut faire attention. Alors, il y a quelques voies de garage, une ou deux voies, donc on ne risque pas de se faire bousculer par un train. Mais ensuite, il y a vraiment les voies. On est dans un site ferroviaire. Le site de Plateforme 10 était un ancien lieu de maintenance des trains et des locomotives.
Inspiré par ce passé industriel, Plateforme 10 affirme une architecture très minérale. On trouve sur ce site de 25 000 m² deux grands bâtiments abritant les musées des beaux-arts, du design et de la photographie. Pour leurs expositions inaugurales, ces trois musées ont choisi tout naturellement de s'intéresser au train, un thème qui permet de revisiter l'histoire de l'art sous différents angles. Patrick Giger, directeur général de Plateforme 10.
On parle de la machine, bien sûr, on parle du progrès, du mythe du progrès qui a bercé le 19e et le 20e siècle. On parle de conquérir, dans tous les sens du terme, positif et négatif, le territoire, de tracer des lignes dans le paysage, de s'approprier justement notre environnement. Donc c'est un objet civilisationnel, d'une certaine manière.
Le Musée des Beaux-Arts a ainsi réussi à faire venir des toiles de premier plan, car certains peintres se sont montrés particulièrement inspirés par le train, comme Édouard Hopper, Paul Delvaux ou encore Giorgio De Chirico, Camille Levesque-Claudet.
De Chirico va être absolument fasciné par le train. Il est fils d'un ingénieur ferroviaire et il est installé en Grèce. Son père réalise le nouveau chemin de fer de Thessalonique. Et pour le jeune enfant, le train, ça veut dire vraiment à chaque fois le déracinement. Et ça va devenir vraiment un rêve, des cauchemars récurrents. Et ce côté cauchemardesque, on le retrouve dans ses tableaux.
Au musée de la photographie, l'exposition est une sorte de cabinet des curiosités, réunissant des photos, mais aussi des films, des dessins. Nathalie Hersdorfer, la nouvelle directrice du musée de la photographie.
Le train naît au 19e siècle, au moment même où la photographie naît. Et la photographie nous fait voyager. Depuis bientôt 200 ans, depuis le début du 19e siècle, on découvre le monde par les moyens de transport, le train en fait partie, mais aussi par la photographie.
À l'étage, le musée du design s'est lui intéressé aux objets en lien avec le ferroviaire et notamment avec la gare. On y voit des malles, des horloges, des luminaires ou bien encore d'étonnantes affiches réalisées par Salvador Dali, le conservateur Marco Costantini.
C'est une commande de la SNCF en 69 qui voulait faire une campagne pour les grandes villes françaises. C'est une campagne qui existait en français, en espagnol, en allemand et qui était pour effectivement favoriser le tourisme en France. Et donc Salvador Dali, alors, pour certaines, a repris des tableaux qu'il avait déjà réalisés, qu'il a agrémentés de collages. Mais la plupart ont été réalisés par Dali pour cette commande spécifique.
La construction de Plateforme 10, à la fois les musées et l'aménagement du quartier, a coûté 200 millions d'euros, dont 40% venant de fonds privés. Un modèle économique qui se veut vertueux, mais qui se heurte en interne à de fortes crispations sociales. Dans les musées, des affiches invitent les visiteurs à signer des pétitions contre les baisses de salaire et la multiplication des contrats précaires.
Voilà, avec donc des expositions consacrées au train qui se tiennent à Plateforme 10 à Lausanne jusqu'au 25 septembre. Un reportage pour VMDN signé Antoine Pecker. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain, bien sûr, avec le chanteur sénégalais Lidiop pour son album Another Vision qui sort demain en digital. En attendant la version physique, à demain donc, et vous m'en direz des nouvelles.